La santé, c'est l'affaire de tous.
La santé, c'est l'affaire de tous. Votre émission tous les 15 jours sur Phare FM Montauban le samedi matin. Et nous retrouvons tout de suite notre médecin référent. Vous commencez à bien le connaître, Edmundo Pereira. Bonjour Edmundo, comment vas-tu aujourd'hui?
Bonjour Samuel, ça va très bien. Et aujourd'hui, on a beaucoup de choses à parler. On va recevoir le docteur Antoine Chelesky qui va nous parler de la médecine préopératoire, la préparation pour une intervention, beaucoup d'informations concernant l'anesthésie. Bonjour Antoine, merci beaucoup de ton temps et d'être présent.
Mais bonjour, merci à tous les deux de me recevoir.
Voilà, nickel. Comme c'est un peu l'habitude dans l'émission, Antoine, avant de passer aux questions, est-ce que tu peux te présenter?
Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Antoine Chelesky. Je suis médecin anesthésiste à l'hôpital de Montauban où j'exerce depuis novembre 2010. Voilà.
D'accord, parfait. Antoine est le responsable du département d'anesthésie. Pour aborder le sujet aujourd'hui, on va parler effectivement de la préparation avant une intervention, l'importance de l'anesthésie. La première question, Antoine, pourquoi faut-il voir l'anesthésiste avant d'être opéré?
Alors, la consultation d'anesthésie, c'est une obligation qui est issue d'un décret. Et cette consultation, elle va avoir plusieurs objectifs. Le premier objectif, ça va être d'évaluer l'état de santé du patient avant l'intervention et particulièrement évaluer s'il existe des risques opératoires liés aux antécédents du patient. Ensuite, cette consultation, elle va nous permettre la préparation à l'acte opératoire en prescrivant ou en arrêtant les traitements qui vont permettre d'aborder cette intervention dans les meilleures conditions possibles. Pendant cette consultation, on va informer également sur les différentes techniques d'anesthésie, sur la prise en charge de la douleur et sur la nécessité ou non d'être transfusé, c'est-à-dire de recevoir du sang. Et enfin, pendant cette consultation, on va confirmer la possibilité d'une prise en charge en chirurgie ambulatoire ou en hospitalisation conventionnelle, ou parfois, il faudra prévoir une hospitalisation en soins intensifs après l'intervention, en fonction des antécédents et en fonction de la chirurgie.
Parfait. On entend parler d'un score de gravité pour les patients, un score ASA qui a été proposé par la American Society of Anesthesiology. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi cet score ASA?
Alors, le score ASA, c'est un score qui est utilisé en anesthésie pour exprimer l'état de santé d'un patient avant une intervention. Et comme tu viens de le dire, Edmundo, c'est un score qui a été mis au point par la Société américaine des anesthésistes. Et ASA, d'ailleurs, c'est l'acronyme de American Society of Anesthesiologists. Ce score, il contient 6 niveaux avec des critères bien définis et qui est d'une compréhension assez simple. En fait, plus le niveau est élevé, plus l'état de santé du patient est grave. Voilà. On a un score ASA 1, c'est un patient qui est sans antécédent, et ça va aller jusqu'au ASA 6, où là, c'est un patient qui est en état de mort cérébrale, qui est potentiellement candidat à un don d'organe.
Tu as parlé sur la première question de la consultation d'anesthésie, et c'est quoi la visite pré-anesthésique?
Oui, effectivement, on a parlé de la consultation d'anesthésie, mais là aussi, la visite pré-anesthésique va être une obligation issue d'un décret. En fait, le médecin anesthésiste, dans les heures qui précèdent l'intervention, va venir rendre visite au patient. Et le but de cette visite, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas eu de changements médicaux particuliers depuis la consultation d'anesthésie et de s'assurer également que le dossier d'anesthésie soit bien complet. Alors, ça arrive régulièrement que l'anesthésiste qu'on peut voir pendant cette visite pré-anesthésique n'est pas celui qu'on a rencontré pendant la consultation d'anesthésie. Mais il ne faut pas s'en inquiéter. En fait, le médecin anesthésiste que vous avez vu en consultation, il prend la précaution de transmettre et d'expliquer tout le dossier des patients à l'anesthésiste qui va vous prendre en charge pour l'intervention.
D'accord. Effectivement, on a bien compris qu'effectivement, pendant la consultation, on va discuter un peu sur les techniques d'anesthésie. Est-ce que tu peux expliquer un peu à nos auditeurs quelle anesthésie choisit entre les possibilités qu'on a?
Alors, il existe principalement deux types d'anesthésie. Il y a l'anesthésie générale et l'anesthésie loco-régionale. L'anesthésie générale consiste d'une part à induire et entretenir un sommeil grâce à des médicaments qu'on appelle les hypnotiques. Elle va consister également à supprimer totalement la douleur, le plus souvent par une injection intraveineuse de dérivés de la morphine, ce sont les opiacés, et parfois, si la chirurgie le nécessite, l'anesthésie générale va permettre également de relâcher totalement les muscles du patient en injectant des produits qu'on appelle les curares. Ça, c'est l'anesthésie générale. L'anesthésie loco-régionale, elle, va n'endormir qu'une partie du corps sur laquelle va se dérouler l'opération. Son principe va être d'anesthésier une région en injectant un produit anesthésique local et on va distinguer les anesthésies périmédulaires où le produit est administré à proximité de la moelle. On va retrouver la fameuse péridurale dans ce cadre-là et les anesthésies loco-régionales périphériques où le produit est administré à proximité des nerfs. Alors, le choix du type d'anesthésie, il va se faire en fonction de la chirurgie, en fonction de la durée de l'intervention et bien sûr en fonction des antécédents du patient et de son ressenti. Et ce choix, il est discuté et réalisé pendant la consultation d'anesthésie avec le patient.
Parfait. Et est-ce que tu peux nous dire quels sont les principaux inconvénients et éventuels risques liés à ces deux types d'anesthésie ?
Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le risque zéro en médecine n'existe pas. Tout acte médical comporte un risque. Le but de la consultation d'anesthésie est justement d'identifier les éventuels risques liés aux antécédents du patient et ceux liés à la chirurgie et de faire en sorte que si ces risques surviennent, on les ait anticipés pour y remédier plus facilement. Alors, quels sont ces risques ? Pour les anesthésies générales, les principaux risques sont les nausées et les vomissements au réveil, mais qui sont devenus quand même beaucoup moins fréquents grâce à de nouvelles techniques et à de nouveaux médicaments apparus ces dernières années. Des traumatismes dentaires sont possibles. Il faut savoir que pendant une anesthésie générale, on introduit un masque ou un tube dans la bouche. Et parfois, lors de cette introduction, on peut appuyer sur les dents. C'est pour ça que pendant la consultation d'anesthésie, on vérifie toujours s'il y a une existence ou pas de fragilité dentaire ou d'un appareil dentaire. Il peut parfois aussi y avoir des troubles de mémoire qui sont passagers, qui peuvent survenir dans les heures suivant l'anesthésie, en particulier chez la personne âgée. Et après, de façon extrêmement rare, des complications comportant un risque vital peuvent survenir, comme une allergie grave, une asphyxie ou un arrêt cardiaque. Pour l'anesthésie loco-régionale, concernant les anesthésies périmédulaires, les principaux risques sont plutôt un réveil tardif de la vessie, surtout pour les hommes qui ont des soucis de prostate, une douleur passagère au niveau de la ponction, ou parfois des maux de tête. Et de façon exceptionnelle, pour les anesthésies périmédulaires et périphériques, des complications plus graves comme des convulsions, une paralysie ou un arrêt cardiaque peuvent survenir. Néanmoins, les conditions actuelles de l'anesthésie permettent de dépister et de traiter rapidement les anomalies éventuelles. Il faut savoir que le nombre de décès liés à l'anesthésie baisse continuellement depuis 40 ans et aujourd'hui en France, alors c'est pour donner un ordre de grandeur, hein, mais les derniers chiffres apportés montrent qu'on estime à un peu moins de 7 décès pour 1 million d'anesthésies, tout patient confondu.
C'est-à-dire que finalement, c'est une procédure qui est très sûre pour assurer à nos auditeurs. Effectivement, on a toutes ces soins à faire avant l'intervention pour effectivement s'assurer que le geste va être fait en sécurité. On parle d'anesthésie. C'est lié avec la chirurgie, c'est-à-dire qu'on a deux professionnels, le médecin anesthésiste et le chirurgien. Comment on partage et on échange les dossiers de patients entre l'anesthésiste et l'opérateur ?
Et oui, l'anesthésiste et le chirurgien, c'est un peu le vieux couple de l'hôpital, hein, ça c'est sûr. Alors, il y a un circuit qui est bien établi, hein, entre nos deux professions. Quand on reçoit un patient en consultation d'anesthésie, on récupère une feuille de programmation qui a été remplie par le chirurgien où on va retrouver un grand nombre d'informations sur la chirurgie. Donc, quel est le type de chirurgie, quelle est la date, quelle est la durée estimée par le chirurgien, quel est le côté à opérer et quelle est la position du patient pendant l'intervention. Nous, on réalise la consultation d'anesthésie. Et puis, en fait, chaque semaine précédant la chirurgie, on va réaliser un staff entre chirurgien et anesthésiste. Et là, tous les dossiers sont revus. On va s'assurer que ces dossiers sont complets et s'il y a des interrogations sur une prise en charge, à ce moment-là, entre chirurgien et anesthésiste, pendant ce staff, on en discute.
Parfait. Il faut effectivement, comme tu as bien dit, la question de la sécurité. Il y a la checklist qu'on fait pour être sûr. Il y a effectivement, comme pour les pilotes de vol, en fait, toujours, on regarde toujours si toutes les conditions sont remplies. C'est vrai que avec le Covid, on a beaucoup développé les consultations à distance, les procédures à distance. Est-ce que c'est possible de faire une consultation d'anesthésie à distance avec les outils numériques qu'on a actuellement?
Alors, très bonne question. Oui, c'est possible, mais par contre sous couvert de certaines conditions. Effectivement, et notamment pendant le Covid, il y a eu pas mal de discussions à ce sujet en anesthésie. Il faut savoir que la SFAR, c'est notre société française d'anesthésie et réanimation, elle vient de publier toute une série de recommandations qui confirment cette possibilité de faire de la téléconsultation. L'idée, c'est que grâce à un logiciel qui est installé sur son smartphone ou sur son ordinateur, le patient puisse communiquer avec l'anesthésiste sans se déplacer à l'hôpital. Il y a plusieurs études qui montrent un vrai gain, que ce soit en termes de temps pour le patient, mais aussi en termes financiers et même en termes d'émissions de CO2 qui sont en faveur des téléconsultations sans diminuer la qualité d'évaluation anesthésique d'une bonne partie de ces patients. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les patients ne sont pas éligibles à la téléconsultation. Certains, ils nécessitent une consultation en présentiel. Il faut qu'il y ait une sélection au préalable. Et évidemment, la téléconsultation, elle nécessite au sein de l'établissement du matériel adapté et surtout une organisation particulière. Et là, actuellement, au centre hospitalier de Montauban, l'équipe d'anesthésie, tu le sais, Mondo, on est en train de travailler pour proposer avant la fin de l'année la téléconsultation au Tarn-et-Garonnais.
Nickel, parfait. Bon, c'est vrai que tu nous as apporté beaucoup de renseignements, beaucoup d'informations concernant l'anesthésie. C'est vrai que les questions commencent à arriver en quantité, mais avant de passer aux questions qui ont été posées par la population, est-ce que tu as des choses à rajouter concernant la préparation pour une intervention?
Pas spécialement. Là, je sais que ça fait pas mal d'informations. Après, le message, c'est vraiment la consultation d'anesthésie. On évalue l'état clinique du patient. On l'informe sur le déroulement de l'anesthésie, de la chirurgie. Et surtout, on le rassure. En fait, on va lui expliquer qu'il y aura l'équipe d'anesthésie qui sera à ses côtés pendant toute l'intervention.
Nickel. Merci beaucoup. Alors, pour commencer, les questions qui sont arrivées, la première. Quelle est la différence entre anesthésie et analgésie?
Un peu de sémiologie. Alors, l'anesthésie, en fait, ça vient du grec aesthésis, qui veut dire sensation. Et donc, l'anesthésie, c'est une suppression générale de la faculté de ressentir, notamment, mais pas particulièrement, de la douleur. Le mot algésie, ça vient du grec algos, douleur, qui lui désigne une douleur. Donc le terme analgésie va être employé pour caractériser une technique qui va supprimer exclusivement la douleur. Du coup, l'anesthésie supprime toutes les sensations, dont celle de la douleur. L'analgésie, elle, ne supprime que la douleur. L'analgésie, c'est une partie de l'anesthésie.
Parfait, nickel. Et on apprend toujours le grec avec Antoine, c'est parfait. Alors, est-ce que l'anesthésie... Bon, tu as déjà parlé de ça, mais on va souligner ce point. L'anesthésie est un geste sûr? Comment avoir la certitude?
Ah ben, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, il n'y a aucune certitude en médecine. Le risque zéro n'existe pas. Par contre, donc, l'anesthésie, c'est une pratique qui a énormément évolué et progressé ces dernières années, avec notamment l'apparition de produits de plus en plus fiables, mais aussi toute une série de décrets de sécurité qui ont rendu l'anesthésie beaucoup plus réglementée dans sa pratique, et en particulier au niveau de la surveillance, que ce soit en termes de monitorage, où on va surveiller les paramètres vitaux pendant l'opération, mais aussi que ce soit en termes de moyens humains. Je donne un exemple, le passage en salle de réveil systématique après une intervention, il n'est obligatoire que depuis 1994. C'est pas si lointain que ça, mais auparavant, les patients dans certaines structures pouvaient directement après une intervention remonter directement en chambre sans passer par la salle de réveil. C'est toutes ces mesures en fait de recommandation qui ont permis d'améliorer considérablement la sécurité en anesthésie. Voilà, le risque zéro n'existe pas. Néanmoins, il y a toute une série de recommandations. Tu parlais tout à l'heure de la checklist comme ce qui se passe dans les avions. Voilà, il y a toute une série de surveillance qui fait que maintenant, l'anesthésie, en tout cas, est bien plus sûre qu'il y a 30 ou 40 ans.
Nickel, parfait. Merci beaucoup. Une question concernant la formation médicale des anesthésistes. Les anesthésistes ont une formation médicale? Si oui, pour combien de temps?
Alors, les anesthésistes sont des médecins. Il faut savoir qu'en France, pour tous les médecins, il y a un tronc commun d'études médicales de 6 années et qu'après ces 6 années, on va se spécialiser dans un domaine pendant une période qui est appelée l'internat et qui, en anesthésie, dure 5 ans. Donc, au total, pour être médecin anesthésiste, on a fait 11 années, 6 années de tronc commun plus 5 années de spécialisation.
Et il faut le dire aussi qu'on continue à étudier tout le temps, on n'arrête pas.
Oui, ça, tu as raison, Edmondo. C'est vrai que c'est un métier qui évolue continuellement et qu'il faut tout le temps se former. Ça, c'est
nickel.
Très important.
Parfait. Alors, une autre question. J'ai des problèmes de santé, j'ai le diabète et des problèmes cardiaques. Puis-je être endormi?
Eh bien, ce sera tout l'objet de la consultation d'anesthésie. En fait, c'est là où on va vous évaluer cliniquement, on va évaluer votre statut cardiaque, on va vérifier si votre diabète est équilibré. Et en fonction de cette évaluation et du type d'intervention, on pourra répondre à cette question. Voilà.
Parfait. D'où l'intérêt, effectivement, comme tu as bien souligné, de la consultation d'anesthésie. Oui. Alors, la prochaine question qui va un peu dans le même sens, faut-il que j'arrête mon traitement avant une anesthésie? Il faut arrêter tous les traitements.
Alors, certains médicaments, non. D'autres, oui. Et même pour certains médicaments, leur arrêt est nécessaire plusieurs jours avant l'intervention. Là-dessus, il existe des recommandations très claires. Et ça, c'est l'anesthésiste qui l'explique au patient le jour de la consultation d'anesthésie.
Ok, parfait. Merci beaucoup. Des troubles de la mémoire, sont-ils possibles après une anesthésie?
Alors, oui. Il peut arriver que pendant la première semaine après l'intervention, une altération de la mémoire apparaisse, et notamment chez certains patients à risque, en particulier chez les personnes âgées, ou après une chirurgie majeure, c'est-à-dire une chirurgie très longue avec un risque hémorragique important. Mais dans la plupart des cas, cet épisode est résolutif en 1 à 3 jours. Alors, on ne comprend pas encore complètement le mécanisme physiopathologique. Il y a plusieurs hypothèses sur ces troubles de mémoire, mais ce qu'on pense aujourd'hui, c'est que ces dysfonctionnements cognitifs, ces troubles de mémoire, ils sont probablement d'origine multifactorielle. Ils seraient liés à la fois à certains effets des produits anesthésiques, mais ils seraient aussi également dus aux mécanismes inflammatoires dus à la chirurgie, et peut-être aussi aux éventuels traitements administrés après l'intervention pour lutter contre la douleur, notamment tout ce qui est dérivé de la morphine. Et enfin, il ne faut pas oublier que chez la personne âgée, le changement de milieu et de repère peut être très confusiogène et ça peut participer aussi à ces troubles de mémoire.
Parfait, merci beaucoup. Par contre, chers auditeurs, si vous voyez un médecin qui a un accent, qui vous trouvez beau, ce n'est pas l'effet d'anesthésie, hein, c'est parce qu'il est beau même. Hein. Alors, prochaine question. Peut-on se réveiller pendant une anesthésie ou ressentir quelque chose?
Alors, oui, techniquement, c'est possible. Mais un de nos objectifs de surveillance pendant l'anesthésie, c'est justement de s'assurer que ça n'arrive pas et de s'assurer que le patient dorme bien pendant l'intervention. Il faut savoir que dans une salle d'opération, on a toute une série d'appareils d'anesthésie qui sont reliés au patient par différents capteurs et qui, grâce à plusieurs indicateurs, vont nous permettre de savoir si le patient dort suffisamment. Et ces indicateurs vont nous permettre aussi d'ajuster l'anesthésie et le sommeil du patient tout au long de l'opération. En fait, s'assurer du confort du patient et de son sommeil pendant une opération, c'est vraiment une partie importante de notre métier.
Parfait. Pourquoi faut-il être à jeun?
Pourquoi il faut être à jeun? Une petite explication préalable. Quand on vomit, il y a un réflexe de fermeture de la glotte. La glotte, c'est la partie qui est juste au-dessus de la trachée. Et ce réflexe, il permet d'éviter que les aliments contenus dans l'estomac passent dans les poumons. Quand on fait une anesthésie et quand on endort un patient, on endort aussi ce réflexe de fermeture de la glotte. Donc, si on a un patient qui n'a pas l'estomac vide et qui se met à vomir, il y a un risque de passage des aliments du contenu gastrique dans les poumons, ce qu'on appelle l'inhalation. Et même des petites quantités de liquide gastrique qui passent dans les poumons, ça peut avoir des conséquences graves, puisque en fait, les poumons, en dehors de l'air et de l'oxygène, ce n'est pas fait pour recevoir autre chose et le contenu gastrique est très acide. Donc, sauf urgence, on ne prend pas le risque d'endormir un patient qui n'est pas à jeun.
D'accord. Et il y a des choses particulières concernant ces jeunes, parce que je sais qu'il a des jeunes modifiés. Est-ce que tu peux parler un peu de ça?
Alors, il y a plusieurs années, c'était un peu dogmatique, très, très sectaire là-dessus. C'est-à-dire qu'on disait il ne faut plus boire et manger au moins 6 heures avant l'intervention. Là, les choses ont bien évolué. Il y a pas mal d'études qui ont évalué en fait les résidus gastriques après une alimentation et avant anesthésie. Donc les recommandations actuelles, c'est-à-dire que pour tout ce qui est solide, dernier repas, c'est 6 heures avant l'intervention. Et par contre, pour tout ce qui est liquide clair, donc j'entends par liquide clair de l'eau plate, un thé, un café, mais sans lait, sans crème, vous voyez, il ne faut pas de liquide épais, et même des jus de fruits sans pulpe, par exemple un jus de pomme, tous ces liquides clairs, on peut les consommer jusqu'à 2 heures avant l'anesthésie. En fait, on s'est même rendu compte que c'était plutôt bénéfique pour les patients, puisque non seulement ça a amélioré leur confort, mais en plus, ça diminuait leur déshydratation et ça diminue aussi d'éventuelles nausées ou vomissements qui existent après certaines interventions. Donc là, on est plutôt actuellement dans l'optique de motiver les patients à boire des liquides clairs jusqu'à 2 heures avant l'intervention. Voilà. Par contre, les solides, c'est 6 heures avant l'intervention.
Parfait, Antoine. Merci beaucoup pour ces renseignements. Et pour les patients fumeurs, est-ce qu'ils peuvent fumer le jour de l'intervention?
Alors, ça dépend en fait. C'est pas bien de fumer, hein. Il faut pas fumer. C'est que les fumeurs, dans une petite parenthèse quand même, les fumeurs, en fait, un patient tabagique, on sait que c'est un patient qui statistiquement pourra présenter plus de complications post-opératoires, notamment en termes d'infection sur le site opératoire, sur des défauts de cicatrisation. Donc, tout arrêt du tabac, même d'une dizaine de jours avant l'intervention, c'est toujours bénéfique pour le patient. Ça, c'est une première chose. Après, le tabac par rapport au contenu gastrique, est-ce que les patients, on les considère à jeun ou pas? On est plus souple là-dessus. On pensait avant que le tabac, ça faisait pas mal de sécrétions gastriques et que les patients n'étaient plus à jeun. Là, on est en train de revenir un peu là-dessus. Et on est plus tolérant là-dessus, on peut jusqu'à 2 heures avant l'intervention permettre une anesthésie. Même s'il y a certains confrères qui refusent une anesthésie chez des patients qui n'ont pas respecté la règle du jeûne pour le tabac.
D'accord, c'est-à-dire qu'effectivement, comme tu as bien dit, le message a passé pour les fumeurs. L'idéal, c'est arrêter effectivement quelques jours avant l'intervention. Parfait. Bon, Antoine, un grand merci pour ton temps et d'avoir répondu, y éclairer un peu. Est-ce que toi, tu veux rajouter des choses? Est-ce que tu as des points que tu penses qu'il faut effectivement éclairer un peu plus avant de finaliser l'émission?
Non, moi, j'ai pas grand chose à rajouter. Je vous remercie de m'avoir reçu aujourd'hui. Je trouve la démarche super. Après, c'est vrai que j'ai un confrère qui disait que l'anesthésie, c'est quand même une science un peu obscure, hein. C'est un peu comme Batman, hein. On sait pas ce que fait l'anesthésie, on sait pas où il est, mais quand il y a un problème, on demande où est l'anesthésiste. Et j'espère que notre échange aura permis un peu plus d'éclairer notre profession.
Je suis sûr et certain. De toute façon, il faut que tu saches que Phare FM, les portes sont toujours ouvertes. Tu peux venir quand tu veux pour effectivement parler encore de ce sujet ou d'autres sujets. Merci beaucoup de ton temps et des explications. Et Samuel, je te passe l'antenne.
Merci à vous deux, merci beaucoup Dr Chelesky d'avoir accepté notre invitation et l'invitation de votre confrère Edmundo Pereira, médecin anesthésiste au centre hospitalier de Montauban. Ce sujet sera bénéfique pour tous nos auditeurs. Merci beaucoup encore et on se retrouve très très vite. Merci.
Au revoir, ciao.